Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans votre magazine de la vie au quotidien, au Okapi Service. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Comment impliquer les adolescents dans la lutte contre la violence numérique envers les femmes et les jeunes filles? On en parle aujourd'hui avec Madame Yeyet Elonga, coordonnatrice de l'ASBEL Femina. Madame Elonga, bonjour.
Bonjour, Monsieur Jody.
Bienvenue dans cette émission. Et n'est pas seul, nous avons également sur ce plateau Monsieur David Vungbote, chargé de qui est aussi membre de l'ASBEL Femina. Monsieur David, bonjour.
Bonjour, Monsieur Jody.
Bienvenue dans cette émission des questions et préoccupations. Appelez-nous au 089 55 98 337. 089 55 98 337. Dans la deuxième partie de ce programme, nous allons parler de l'indemnisation des expropriés des rocades de Kinshasa. Comment évolue le processus? Monsieur Georges Kochi, secrétaire général au ministère des ITP et coordonnateur de la commission interministérielle en charge des expropriations du projet des rocades de Kinshasa, sera notre invité à partir de 11h05, heure de Kinshasa. Billy Landry Betou à la mise en onde, Grâce à Mwezolo coordonne et réalise cette émission. Jonathan Chimanga s'occupe des plateformes digitales, Radio Okapi, au micro Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Bien, nous parlons à présent de la violence numérique. Vous savez, c'est l'une des formes d'abus qui se développe le plus rapidement dans la société aujourd'hui. En effet, de nombreuses femmes et jeunes filles sont victimes de harcèlement, de chantage, de la désinformation et autres. Et selon les experts, les préjudices en ligne ont des impacts physiques et psychologiques douloureux dans la vie réelle. Alors, pour lutter contre ce fléau, Femina ASBEL a organisé des séances de sensibilisation des élèves dans plusieurs écoles de Kinshasa. C'est là dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites à la femme et à la jeune fille. Cette campagne qui se clôture aujourd'hui. Alors, quel est l'apport des adolescents? Comment impliquer les adolescents dans la lutte contre les violences basées sur le genre? Sur les réseaux sociaux en particulier. On en parle aujourd'hui avec nos invités. Madame Yeyet Elonga, vous êtes coordonnatrice de l'ASBEL Femina. Femina, qu'est-ce que cela veut dire et quelle est la mission et la vision de votre organisation?
Merci Jody. Femina, c'est un acronyme. Il veut dire fille engagée et mobilisée pour son intégration dans la nation. Mais ce n'est pas pour autant que nous ne sensibilisons que les filles. Nous sensibilisons également les garçons parce que en fait il y a les deux genres, il y a le genre masculin et le genre féminin. Et donc les violences basées sur le genre, si on doit déjà mettre les deux pieds dans le sujet, les violences basées sur le genre ne concernent pas que les femmes ni les filles, mais concernent également les hommes. Sauf que la proportion avec laquelle ou la quantité des cas qui sont commis à l'endroit des femmes et des filles sont quand même trop élevés. Oui. C'est comme ça qu'on en parle, il faut qu'on dénonce et qu'on arrête un peu avec ce fléau. Voilà.
Bien, alors dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites à la femme et à la jeune fille, quelles sont les activités que l'ASBL Femina a eu à organiser?
Oui, nous avons principalement organisé des sensibilisations dans les écoles, parce que Femina ASBL est partenaire de l'EPST. Nous travaillons dans les écoles et nous sensibilisons généralement sur plusieurs thématiques. Le VIH-SIDA, les violences basées sur le genre, la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Nous faisons également la promotion des droits de l'enfant et le mentorat. Mais comme nous sommes en train de parler de la campagne des 16 jours qui se clôture aujourd'hui, qui a commencé depuis le 25 novembre, nous avons principalement focaliser nos messages sur les violences sexuelles basées sur le genre et les violences numériques. Parce que c'était ça le thème, mettre un accent cette année 2025 sur la violence numérique dont les femmes et les filles sont, je dirais,
victimes.
Ouais.
Bien, monsieur David Vungbote, parlez-nous. On parle souvent des violences basées sur le genre. Qu'est-ce que cela veut dire exactement?
Les violences basées sur le genre, ce sont des violences de tout type déjà, qui tiennent compte de l'âge, du sexe, et ce sont ce genre de violences-là que nous, féminins aussi, on essaye de sensibiliser pour aider les jeunes à ne pas tomber dans ce piège-là de la violence basée sur le genre.
Des exemples?
Des exemples, je veux dire, exemples déjà psychologiques comme des insultes, des menaces envers à l'égard des personnes qui sont peut-être marginalisées, des personnes qui ont des problèmes, des personnes qui n'arrivent pas à se retrouver dans la société. Et nous sommes là pour sensibiliser et aider ces gens-là à ne pas être victimes de ce type de violence.
Et par rapport aux violences numériques, vous avez identifié quels sont les types de violences que vous avez pu identifier?
Oui, aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qu'on a identifié, et au milieu de la jeunesse, c'est ce type de violence qui se passe souvent sur les réseaux sociaux, où on voit souvent les jeunes balancer des vidéos surtout celles des jeunes dames nues, et qu'on appelle souvent dans le milieu des jeunes des nudes. En tout cas, c'est
tous les sextapes.
Le sextape, c'est vraiment ce genre de violence qui fait rage ces temps-ci, où on expose, on crée des pages pour essayer d'exposer des jeunes filles. Et
peut-être que c'était sa copine, et pendant qu'ils étaient ensemble, ils demandaient des vidéos.
Exactement.
Et quand ils se sont séparés, voilà, on balance sur les réseaux.
Exactement, c'est ce genre de violence-là qu'on identifie très souvent au milieu des jeunes, et surtout dans le milieu numérique.
Madame Elonga, quelles sont les autres formes de violences numériques à l'égard des femmes et des jeunes filles?
Bon, les violences numériques, c'est un contenant. Le contenu, ce sont ces vidéos. On veut faire du chantage. On est en train de menacer. On veut traumatiser. On veut ridiculiser. On veut harceler. C'est tout ça. Et donc, c'est vrai. C'est vraiment dommage, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est comme un couteau qu'on a entre les mains. Est-ce que faudrait-il que je me blesse ou que je blesse l'autre? Le couteau peut m'aider à servir, à faire autre chose avec l'autre. Ça peut nous aider à partager un pain, ça peut nous aider à éplucher une banane ou une pomme de terre, je ne sais pas. Mais si ce couteau que j'ai entre les mains doit me servir à blesser les autres, c'est pas intéressant.
Bon, il y a une sorte de liberté ou de libertinage. Chacun derrière avec son téléphone, dans sa chambre, partout, il se permet de publier n'importe quoi sur les autres.
Oui, malheureusement. En fait, les victimes, en fait, comme je dirais, les victimes, c'est peut-être des personnes qui n'ont pas assez d'informations. Et elles sont tombées en face, où elles ont eu à leur côté une personne qui leur a mis des idées dans la tête, parce que je ne vois pas comment une fillette de 12 ans, de 13 ans, chercherait à se filmer nue. Sûrement, on le lui a demandé.
Oui.
Et là, il y a quelqu'un qui a une certaine influence sur elle. Donc, il est quand même important qu'on martèle sur ce problème-là. Il n'est pas intéressant. Moi, quand nous faisons nos sensibilisations sur la page du plan de présentation, parce que j'ai vraiment le plan en tête, la page du plan de présentation, c'est un être humain, mais qui a caché son sexe avec une pancarte où on a écrit « Stop ». Ça veut dire que ma nudité, elle est à moi.
Elle n'est pas exposée.
Elle n'est pas exposée, justement. Donc, il est important, et c'est sur ça, justement, pour nous, c'est le premier sujet sur lequel nous abordons notre matière. Quand je passe à cette page-là, je demande aux enfants, qu'est-ce que vous voyez? Ils sont en train de rire entre eux, et tout. J'ai dit, non, ne riez pas, qu'est-ce que vous voyez? Ah non, il y a quelqu'un qui se cache, qui a caché sa nudité. J'ai dit, ça veut dire que personne n'a le droit de voir ta nudité. Et je pose également la question, qui ce matin est venu ici à l'école nu ? Il se regarde.
Personne.
Personne. Ça veut dire que nous sommes venus habillés et quand nous sommes dans notre chambre, quand nous devons prendre notre bain, notre douche et tout, nous fermons toujours la porte. Et pourquoi aujourd'hui on doit vous demander de poster des images où vous êtes nus ? Donc c'est en fait ça, c'est la première page et c'est sur là justement que nous interpellons.
Et comment les enfants réagissent quand vous leur parlez comme ça ?
Bon, au départ c'était très difficile, dans le sens où quand on mélangeait les filles et les garçons, c'était un peu dérangé, c'était un peu très difficile de les contenir. Ils n'étaient pas très gênés, mais en fait ils voulaient déranger pour distraire les autres. Mais depuis qu'on a pris l'option de séparer les filles des garçons et ces différents sexes dans les différents endroits où on se retrouve, donc les garçons avec Monsieur David, les garçons s'éclatent. Alors, ils posent toutes les questions, et il y a même des questions où vous ne pouvez même pas imaginer que des enfants de primaire puissent vous poser des questions. Et des questions qu'ils posent sur la masturbation. En sixième primaire, ils posent des questions sur l'usage, comment ils m'ont demandé à l'époque où je les prenais, filles et garçons, pendant la même séance. Il y a même un qui m'a posé la question de savoir, il me demandait de lui montrer comment on utilise correctement un préservatif. Je lui ai dit, d'abord, où est-ce que tu en as entendu parler? Il dit, mais c'est mon père qui en parlait. Je lui ai dit, alors c'est simple, demande à ton papa de te le montrer, parce que c'est très délicat.
C'est très délicat de montrer ça à un enfant de son âge.
Tout à fait.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Nous parlons de l'implication des adolescents dans la lutte contre la violence numérique. Éminent Mwanda, vous êtes à Bukavu, Georges Kilangala à Bunia et Jérémy Mwamba à Lubumbashi, vous voulez participer, eh bien, composez les 089 55 98 337.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioOkapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioOkapi.net, la radio en différé à votre service. Okapi.
Lutte contre la violence numérique envers les femmes et les jeunes filles. Emina Mwanda, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour, Dante. Bonjour à toutes les personnes qui nous accompagnent, surtout, monsieur Grasse.
Quelle est votre question?
Bon, j'ai au moins 6 questions à poser aux invités.
Combien?
La première question est de savoir.
Combien de questions?
Pourquoi les femmes et les filles sont-elles les plus touchées par cette forme de violence? La deuxième question, quels sont les signes qui permettent de reconnaître qu'une personne est victime de violences numériques? Troisième question, quelles sont les conséquences psychologiques de ces violences chez les adolescents? Autre question, quel rôle les jeunes, en particulier les adolescents, peuvent-ils jouer pour prévenir ces violences sur les réseaux sociaux? Et enfin, la dernière question, les lois congolaises protègent-elles suffisamment les victimes de cyberviolences? Parce que, monsieur Jody, permettez-moi de placer mon. Les adolescents ne sont pas seulement des cibles, ils peuvent devenir des alliés puissants dans la construction d'un aspect numérique plus sûr qu'équitable. Parce que la mobilisation dans les écoles et clubs peuvent particulièrement à des clubs lutter contre les violences, organiser des débats, animations, campagnes de sensibilisation avec des associations comme Féminas Bell.
Bien, merci Emina Mwanda depuis la ville de Bukavu. Georges Kilangala, vous êtes à Bunia, bonjour.
Oui, bonjour monsieur les journalistes, bonjour aux invités.
On vous écoute.
Oui, je pense qu'avant même, avant que je ne pose ma question, je pense qu'il faut voir cette question des cyber-violences, s'il faut le dire comme ça, dans un contexte général. aujourd'hui, nous sommes dans une société où il y a des stéréotypes qui vont à l'encontre justement de la dignité même de la femme. Et lorsqu'il y a des organisations qui travaillent dans ces sens, elles doivent savoir bien orienter leurs actions pour ne pas aller en ordre dispersé et pour ne pas vraiment dépenser l'énergie pour des choses qui ne seront peut-être pas et qui n'auront pas justement un bon écho sur l'évolution ou l'amélioration de la situation sur le terrain. Monsieur, je pense que cette question-là touche la responsabilité même de l'État. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un État qui ne sait pas s'adapter aux enjeux actuels et l'évolution même de la société. Aujourd'hui, on parle de quand un État est d'abord incapable d'assurer la sécurité physique de ses citoyens. Aujourd'hui, il y a cette dimension-là, la sécurité maintenant au niveau numérique. Vous voyez, donc, l'État doit prendre des mesures.
D'accord, l'État doit prendre des mesures, mais est-ce que vous avez des questions particulières à adresser aux invités qui sont ici sur le plateau?
Oui, je voulais poser une seule question aux invités. Quels sont les facteurs qui favorisent cette cyberviolence à l'égard des femmes et des jeunes filles?
Merci beaucoup. Jérémy Mwamba de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour également à l'invité. La problématique des cyberviolences, nous ne cesserons jamais d'en parler. Ça a touché vraiment presque toutes les couches sociales, non seulement la République démocratique du Congo, mais c'est presque sous les quatre vents du monde entier. Ici, je voudrais appeler le gouvernement face à ses responsabilités. Nous ne pouvons pas tolérer quand même certaines choses. Nous voyons aujourd'hui même les autorités sont victimes. Mais lorsque elles sont frappées, qu'est-ce qu'elles attendent pour prendre comme disposition et décision? On laisse une récréation notoire, surtout pour la femme. C'est là que j'interpelle peut-être quatre ministères qui doivent travailler concomitamment, n'est-ce pas, pour mettre fin à cette situation d'insécurité au niveau des réseaux sociaux, surtout dans ces registres de violences, n'est-ce pas, à rapport avec le cyber. C'est là que nous disons ceci. Le ministère de l'Éducation est interpellé, le ministère de la Justice, des droits humains, ainsi que peut-être du JAR. Ils doivent se mettre ensemble pour travailler d'arrache-pied, pour, n'est-ce pas, éteindre, n'est-ce pas, ces traits enflammés qui vient peut-être détruire les coûts sociaux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'un enfant qui est à l'école primaire, déjà, on lui apprend l'éducation à la vie, et pas de manière coordonnée, de manière non sécurisée. Voilà comment on place nos enfants devant un fait accompli. Qui est le responsable? C'est là que je pose la question à madame. Quel est l'impact du ministère de l'Éducation dans tout ce que nous sommes en train de vivre? Et que fait la justice lorsque victime il y a? Lorsqu'on a des victimes, qu'est-ce que la justice fait sur ce point? Il faut prévoir des barèmes de sanctions. C'est là que le Parlement devrait, donc ça dit, taper du poing sur la planche. Donc ça dit, mettre le gouvernement devant ses responsabilités pour remettre les choses en ordre. Nous voyons tout le temps dans notre pays ce qui se passe aujourd'hui. Vous vous levez chaque matin, il y a au moins un numéro qui fâche et en rapport, surtout avec des violences lié à la femme.
D'accord, merci beaucoup, monsieur Jérémy.
C'est là que nous demandons aussi.
Oui. D'accord.
Aux parents.
Oui, aux parents. Qu'est-ce que les parents doivent faire
pour ne puissent pas éduquer correctement les enfants?
Bien, merci beaucoup, monsieur Jérémy. Bien, monsieur David Vongote, à vous la parole. Vous avez suivi les différentes préoccupations.
Il y a monsieur Éminent qui a posé une question. Je crois que je pourrais répondre à deux de ces questions. Il a posé une question. Pourquoi les femmes et les filles sont les plus touchées de cette forme de violence-là? Et aujourd'hui, déjà, on voit, nous sommes dans une génération où toutes les femmes se sentent libres. Aujourd'hui, elles se disent qu'elle est libre peut-être de prendre des photos comme elle veut. Elle peut poster sur ses différents réseaux sociaux.
Oui.
Et juste ça, il y aura peut-être un homme mal intentionné, une personne qui voudrait peut-être aller plus loin avec cette fille, et cette fille va se dire que non, elle s'arrête là, puisque c'est son corps, elle a vraiment le droit de dire non. Et cette personne va essayer de faire en sorte d'entrer en contact ou essayer de trouver un moyen pour avoir quelque chose qui compromettrait peut-être la liberté de cette femme-là. Mmh. Et on voit plus les femmes sont touchées, les femmes sont harcelées sur les réseaux. Pourquoi ? Juste parce qu'elles sont femmes et on les considère comme des êtres faibles. Et c'est ça qui cause problème. Et je crois qu'avec les réseaux sociaux, il n'y a pas une commission de suivi ou une police pour suivre ceux qui commettent ce genre d'harcèlement-là pour les mettre hors état de nuire. Ça, c'est à la première question. Et il y a une deuxième question. Quelles sont les conséquences psychologiques? Moi, je crois qu'il y en a plusieurs. Mais si je peux citer peut-être deux conséquences, c'est déjà la honte. Une personne qui subit ce genre de violence-là aura honte d'elle. Une personne qui voit ses photos balancées, et ça peut même aller jusqu'à lui causer, peut-être lui donner des idées de suicide. Et c'est quelque chose pour laquelle Femina combat pour ne pas que ces personnes-là puissent... tomber plus bas et ou être victime de ce genre de choses.
Madame Yaya Telonga.
Oui, quelles peuvent est-ce, y a-t-il une loi qui protège les victimes? Nous avons une loi qui protège les victimes, c'est sauf que on ne lit pas beaucoup. Et d'ailleurs, je vais parler de l'activité que nous avons eue avec le BCNUDH dernièrement, oui. Du 2 au 5 décembre à Sangamamba, au lycée Don Bosco. Et nous avons eu la visite de la police, en fait. La police nationale congolaise avait également une intervention à faire. Et dans cette intervention, la police a démontré qu'elle est totalement impliquée pour lutter contre les violences numériques. C'est juste que nous leur avons posé la question. C'est bien beau, mais on ne savait pas, vous n'informez pas, vous ne sensibilisez pas les personnes sur le travail que vous faites.
Est-ce que la police a tous les moyens, les équipements qu'il faut pour traquer?
La responsable, la colonel Néné, nous a dit qu'ils ont tout le matériel. C'est juste que les gens ne sont pas informés. Il y avait eu même une scénette démontrant une fille qui avait été victime de harcèlement, une fille mineure qui était victime de harcèlement, et toute la chaîne, le processus pour arriver jusqu'à l'arrestation du monsieur. La police nous a confirmé que ça existe. C'est la police de la protection de la violence faite à l'enfant. Oui, donc les structures sont là, mais c'est juste qu'ils ne sensibilisent pas assez. Ils ont dit qu'ils vont dans les universités. Moi, je leur ai dit, j'ai demandé à colonel Néné, j'ai dit, c'est bien d'aller dans les universités, mais dans les écoles primaires et secondaires, il y a aussi beaucoup plus de victimes, d'ailleurs, parce que là-bas, à cet âge, les enfants sont beaucoup plus naïfs encore. Donc, il serait important. Elle a demandé que lors de la prochaine activité que nous aurons dans les écoles, de les inviter et ils viendraient. Alors, la cyberviolence va-t-elle... Pourquoi la cyberviolence va toujours du côté des femmes, son fond des femmes et des femmes
et des jeunes filles,
des victimes? Oui, parce que, comme Monsieur David l'a dit, est-ce que ça vient d'elle, cette envie de publier son corps? Je ne sais pas. On ne peut pas parler à la place des gens. On ne peut pas non plus parler à la place ni des bourreaux, ni des auteurs, ou des victimes.
Mais ce qui est vrai, par exemple, sur TikTok, on voit, il y a des images des jeunes filles qui s'exposent, qui montrent leur corps, les rondeurs, etc., qui font un peu du marketing personnel.
Si elles font du marketing personnel, moi, je ne peux pas les en vouloir, je ne peux pas les juger. Mais c'est juste que les conséquences, ça fait que les autres voient et pensent que c'est tolérable et les autres vont continuer à le faire. Parce qu'aujourd'hui, sur TikTok, tout le monde a accès à TikTok. Les plus jeunes ont accès à TikTok. S'ils voient, ils vont le faire parce qu'ils vont se dire « Ah, j'ai vu une grande sœur, j'ai vu une yaya, j'ai vu une maman sur les réseaux sociaux le faire. Donc, je peux le faire. » Mais c'est, malheureusement, voilà pourquoi il est important de conscientiser les enfants, de les sensibiliser que c'est un danger. C'est un danger de pouvoir aller comme ça sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui,
il y a d'autres qui laissent même leur numéro de téléphone.
Ils laissent leur numéro de téléphone. Mais moi, je me pose peut-être juste la question. Pourquoi, c'est vrai, autre temps, autre mœurs, comme on dit, à notre époque, on a grandi, on n'avait pas tous ces téléphones. Même avoir un téléphone fixe à la maison, c'était un luxe.
Oui.
Mais aujourd'hui, il y a des parents qui achètent un téléphone Android à l'enfant. De quel âge? De 10 ans, de 11 ans? Pour en faire quoi? Pour en faire quoi? Déjà,
un iPhone ou un
téléphone Android. Mais déjà que l'information diffuse, celle que les enfants ramassent dans la rue, une information qui n'a jamais été, vérifiée, y a tellement d'incohérences dans ce qu'on dit, dans l'information diffuse, mais en plus de l'information diffuse, on vient à ajouter toute cette information qui circule dans les réseaux sociaux. Tout le monde peut écrire dans les réseaux sociaux, la preuve, on le voit, n'importe qui poste n'importe quoi.
Oui.
Donc, il faudrait que déjà les parents, qu'on mette une censure, qu'on mette une barrière. Les enfants, d'un certain âge, n'ont pas besoin, s'ils ont besoin d'un téléphone, peut-être pour communiquer avec la maison, au cas où il y avait des troubles, ou je ne sais pas trop quoi là,
oui.
Juste un tout petit téléphone pour communiquer, mais un Android, il faut encore suivre. Ou alors, il y a même des
D'ailleurs, parents... à l'école, c'est interdit, les enfants n'entrent pas avec les téléphones.
Voilà. Mais dernièrement, dans une école, on nous informe qu'il y a une famille, une petite, qui a sa télévision dans la chambre. Une petite de moins de 15 ans qui a sa propre télévision dans la chambre à partir de l'internet partagé au salon. Elle a sa télévision
sa télé.
Elle regarde ce qu'elle
veut. Donc elle regarde
ce qu'elle veut. Les parents ne sont pas là. Les enfants regardent quoi? Quand on aime un enfant, ce n'est pas de lui donner tout ce qu'il demande. C'est en fait ça.
Mais c'est pas ça de l'amour.
C'est pas ça de l'amour. Mmh. Donner un téléphone Android ou un iPhone, comme on dit, mais installer une télévision dans la chambre de l'enfant, c'est ça aimer l'enfant? Je ne sais pas. Par les temps qui courent, il est très important que les parents revoient un peu leur manière d'agir vis-à-vis des enfants.
Mmh.
Alors, quels sont les facteurs favorisant les violences des femmes et des filles? Oui, il y a le faible niveau d'instruction. Premièrement, il y a des facteurs individuels qui sont, entre autres, le faible niveau d'instruction. Je ne sais pas, je ne veux pas juger, mais ça serait un peu, c'est un couteau à double tranchant, je vois déjà ma réflexion, mais je me dis que le faible niveau d'instruction est quand même pour beaucoup dans ce genre de pratique. Il y a également
l'éducation aux médias. Il y a pas, les jeunes n'ont pas, ne reçoivent pas une éducation aux médias. Pas.
Non, parce qu'il y a le monsieur qui a posé la question en dernier lieu, qui a même fait allusion aux autorités qui sont tombées dans les panneaux des sextapes.
Mmh.
Donc là, je ne sais pas, je ne vais pas parler du faible niveau d'instruction. Donc je dirais juste que les gens doivent savoir quels actes ils posent. Est-ce que c'est intéressant d'avoir sa nudité dans son téléphone? C'est en fait ça. Moi, quand j'entends qu'il y a une publication qui est faite par-ci, par-là, je me pose toujours la question de savoir, en fait, c'est quoi le délire d'avoir sa nudité ou la nudité des autres dans son téléphone? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait?
Yeah.
C'est en fait la question de poser. Parce qu'aujourd'hui, on a vu, d'une manière ou d'une autre, tu as tout dans ton téléphone, tu as le code, mais ça arrive à fuiter. Bon Dieu, arrêtez alors! Parce que c'est en fait ça le problème.
C'est ça.
On croit que chez les autres, ça n'a pas bien marché.
Oui.
Chez moi, ça marcherait. Mais même chez toi, ça fuite. Alors, posons-nous la question. Est-ce que c'est intéressant d'avoir des nudités
dans nos téléphones?
C'est quoi le délire?
Il semble que certains ont des fantasmes comme ça. Pendant les débats, ils se filment et puis ils vont regarder plus tard.
Malheureusement, parmi les questions qui nous ont été posées, par exemple, il y a une petite de 7e qui me pose la question, qui me dit, oui, madame, il y a un monsieur qui m'a dit que avoir des relations sexuelles, ça, c'est bon pour se déstresser. J'ai dit, ce monsieur-là, il faut l'éviter, c'est un pervers. Parce qu'on peut se déstresser par le sport, par la relaxation, on peut regarder la télé, on peut te parler avec des copines, tu t'offres des chips et tu te mets devant la télé, tu regardes une belle série ou quoi.
Et comment il faut dire ça à une jeune fille? De quel âge?
7e, c'est 12 ans, je pense.
12 ans.
12, 13 ans. Et je vous dis que depuis qu'on avait pris l'option de les séparer les filles des garçons, et les questions, elles sortent. Et on comprend qu'il y a un danger.
Oui.
Si on y prend garde, le danger sera grave, quoi. Et on ne pourra même plus arrêter ce qui va se passer.
Bien, avant de poursuivre, j'ai 4 auditeurs en ligne. On va les recevoir rapidement. Franck nous appelle depuis Vienne, en Autriche. Maître Omar est à Kinshasa. Sylvain Agenora, à Nitouri. Et Jeannot Louemboué de Kolwezi. Franck de Vienne, bonjour.
Et bonjour. Bonjour à tous les amis de la radio.
Quelle est votre question, Franck?
Oui, en principe, ce ne sont pas seulement des questions pour moi par rapport à la thématique telle que je suis en train de vous suivre, mais ce sont peut-être quelques observations.
Oui.
Oui. Par rapport à ce que je suis en train de vous suivre là, je trouve que la problématique dont il est question ne peut être convenablement comprise que si nous prenons en compte les contenus de nos réalités culturelles ou interculturelles. Parce que dans un milieu si déjà dès le départ, on considère, on sait que l'être féminin, dans la plupart de nos sociétés traditionnelles, elle est victime de beaucoup de marginalisations et de présomptions culturelles, traditionnelles, interculturelles. Et si à cela, on ajoute le fait que nous sommes en train de vivre dans une société qui n'a plus de référence, nous sommes dans une société dont les citoyens n'ont plus la culture de se soumettre aux lois de la République, et nous sommes dans une société où on est en train de traverser une crise des valeurs, une crise d'éducation. La problématique qu'on est en train de débattre n'est que l'une des conséquences de tout ce qui est là comme réalité sociale. Alors maintenant, au niveau de ce que nous sommes en train de vivre, il y a des nouveautés, par exemple la révolution digitale, la digitalisation. C'est une révolution qui s'ajoute à la réalité quotidienne. Mais est-ce que nous avons déjà intégré cet aspect au niveau de notre cursus éducatif? Donc, nous voulons seulement nous greffer par rapport à toutes ces nouveautés, mais du côté de notre pays, on ne s'efforce pas tellement pour adapter nos valeurs éducatives par rapport à cette vitesse scientifique, par rapport à cette vitesse cybernétique, et ainsi de suite. Alors, déjà, au niveau des familles, si on se rend encore compte qu'il y a des laissés-aller, les parents perdent de plus en plus le pouvoir devant leurs enfants, l'autorité. Au niveau des écoles, qui devaient penser à ce que les bases éducatives puissent être affermies, c'est le nivellement, c'est le laisser-aller. Et c'est un peu tout ce que madame est en train de dire que je voudrais renforcer. Alors, dans des pays organisés, on devait toujours chercher à repenser la politique de l'éducation. On devait toujours chercher à repenser ce qu'on donne aux citoyens comme base, comme valeur. Mais qu'est-ce que nous enseignons à nos enfants? Quelle est la base? Quel est vraiment l'épicentre de la vision politique, de la politique éducative de la République démocratique du
Congo? Merci Franck.
On va nous dire.
Merci beaucoup Franck. On va donner la parole aux autres qui attendent. Merci. Maître Omar, vous êtes à Kinshasa. Bonjour. Maître Omar Kigalo, bonjour.
Et bonjour aux invités.
On vous écoute.
Merci beaucoup. Ma première question est adressée aux invités. Quand tu parles de violence numérique, c'est diversifié. Il faut allusion à quelle violence exactement? Violence verbale, physique et sexuelle. Deuxième question, est-ce qu'il travaille avec les écoles? Ce que l'un de mes prédécesseurs a dit, c'est la vérité. Le cours d'éducation à la vie inventé par Madame Bestibrock est un cours important. Mais beaucoup d'enseignants les dispensent mal et ça se suce la sexualité des enfants. Ils doivent marteler sur cela. Il y a des aventuriers qui enseignent ces cours avec légèreté au lieu que l'enfant apprenne la vie sexuelle et il s'en dévie. C'est comment parler les statistiques. Alors, avant de passer à une autre question, quelqu'un a demandé les lois. Moi, je vous ai dit que les lois existent. On a d'abord le code du numérique qui a été voté en 2023. L'article 310 de ce code est précis. Tout celui qui diffuse ou qui relaie une image tendance à lire une autre personne doit être sanctionné. Donc la loi existe. Il y a aussi la loi du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles. Tout acte qui porte atteinte à la moralité sexuelle de l'enfant, mineur, fille ou garçon, est sanctionné. Il y a aussi le code pénal. Donc le fait pour quelqu'un de prendre une image d'un enfant mineur et la diffuser pour la saluer est une infraction. Seulement, on a dans ces pays un État qui n'existe presque pas. On a récemment un musicien qui a fait le sextape, mais qui continue à produire des albums. Moi, je pense que, madame, au-delà de ce que vous dites, vous devez aussi sensibiliser les écoles. Parce que tout se passe par là avec ces cours d'éducation à la vie. Mais aussi la famille. Je me souviens, quand j'étais petit, ma mère avait des traumatismes avec mes sœurs. C'est-à-dire, elle leur contrôlait chaque samedi. Si elles sont toujours dans leur virginité. Et mes sœurs avaient peur de fréquenter un homme. Aujourd'hui, il y a un laisser-aller au niveau des parents. L'enfant peut s'habiller comme elle veut, aussi au vu des parents. Elle peut fréquenter n'importe quel ami. Donc, si la famille, déjà qui est la base, ne fait rien, votre combat ne mènera nulle part. Alors, j'ai fini en proposant que l'autorité qui fonctionne fasse vraiment son travail. Que celui qui s'est vertu de diffuser l'image qui salue l'enfant soit sanctionné. S'il y a la sanction, ça va diminuer. Des deux, les victimes doivent dénoncer. Mais aussi l'éducation des bases, comme on l'a dit. Mais enfin, il y a un problème important. On parle du numérique. On a un problème sérieux des services techniques. On ne sait pas identifier celui qui a diffusé. Et l'image part à plusieurs forums. D'où il faut que ce que la loi a prévu soit appliqué. Il faut des experts en informatique, en numérisation, pour savoir identifier qui a diffusé. Parce que dès qu'on commence à l'identifier, les sanctionner, c'est un vrai diminuera. Voilà ma question et ma petite contribution, M. Jeudi.
Merci à Maître Marc Igalo. Sylvain Aguenora, depuis l'Itouri. Bonjour.
Oui, cher Jeudi, bonjour. J'ai dit aussi bonjour à tous les invités.
On vous écoute, Sylvain.
Bien. Il y a mon ami Franck, que j'ai sali à partir de Vienne, mais aussi Maître Omar. Je voudrais réfléchir avec les invités, puisque je le faisais déjà quand on a lancé le séjour d'activisme pour les droits de la femme, mais aussi chaque mois de mars. Moi, j'ai réfléchi à travers nos organisations, c'est la question des droits de la femme. Je ne sais pas si les invités comprennent l'aspect de la vision de nos femmes et de nos jeunes filles de ce que nous appelons la vie. Je ne rentre pas dans l'aspect, et je voudrais que vraiment les invités me comprennent, je ne rentre pas dans l'aspect de l'éducation ratée que certaines jeunes filles, certaines femmes, même et surtout maintenant dans leur maison, au récit de leurs parents. La jeune fille qui est très mal éduquée par sa mère, et le jeune garçon qui est très mal éduqué par son père, qui crée cet imbroglio dans les réseaux sociaux pour violer les droits des femmes. Je ne reviens pas là-dessus puisque déjà beaucoup d'intervenants l'ont fait. Mais oui. Je voudrais que les invités me disent, dans ces différentes activités qu'ils mènent, est-ce qu'ils ont saisi l'aspect, la vision de la jeune fille, la vision de la femme sur sa propre vie? Puisque j'ai comme l'impression, même si on parle de violation des droits de la femme par la voie numérique, mais quelle est d'abord la vision de la jeune fille? Quelle est la vision de la femme lorsqu'elle prend son téléphone? Qu'est-ce qui le pousse à avoir un smartphone? Qu'est-ce que cette jeune fille, qu'est-ce que cette femme recherche dans son smartphone? Si déjà la jeune fille, mal éduquée par sa mère, lorsqu'elle pénètre dans son téléphone, commence à chercher les sextapes, les films pornographiques, des films des Nigériens qui exposent le corps, et par ricochet se transmet dans ce genre de comportement, et cette jeune fille, cette femme même mariée, commence à s'habiller comme si elle était en dehors de l'homme culturel, tel que Maître Omar l'a dit, et même d'autres intervenants, eh bien, il faudrait que nous puissions réfléchir pendant ces 16 jours d'activisme. Comment faire intérioriser la femme, la jeune fille, la vision de sa fille, puisque chaque fois, on dit que ce sont les hommes qui violent les droits des femmes. Mais attention, des fois, la cause première, c'est cette femme, c'est cette jeune fille, qui par la mauvaise éducation et le manque de vision de sa propre vie se comporte comme une délinquante, eh bien on en profite. Je m'arrête là.
Merci beaucoup Sylvain. Jeannot Louemboué, vous êtes à Kolwezi, bonjour. Allô Jeannot Louemboué, vous êtes là?
Oui, je suis. Bonjour Monsieur Jeudi, j'espère que vous m'entendez bien.
Oui, oui, on vous capte 5 sur 5, allez-y.
Merci, merci du choix par rapport au thème. Nous parlions les invités et les auditeurs. Bon. Nous avons bien suivi le propos tenu par madame et messieurs les invités. Je pense que nous sommes dans une sorte de trio, hein. C'est-à-dire les femmes comme madame sur le plateau, en face, il y a ces autres-là qui ne pensent pas comme elles. Et de l'autre côté, pour faire ce trio, il y a les hommes. Nous sommes dans un monde où il y a deux genres. Et ces deux genres s'entretirent. C'est-à-dire, l'homme est attiré par la femme et la femme est attirée par l'homme. Madame est en train de faire un combat que nous appuyons, nous encourageons. Mais je dois dire ici qu'il est combattu par.
Qu'est-ce que je vais dire par là? Elle est combattue par quoi?
Pendant que le combat que mène madame, les femmes comme madame, parce qu'elle représente une catégorie de femmes qui sont en train de lutter pour le droit des femmes. Je ne sais pas si vous comprenez là maintenant.
Oui.
Et de l'autre côté, il y a un autre groupe de femmes qui se foutent un peu de ce que font les femmes que madame représente sur le plateau. Maintenant qu'elle passe pour décourager aux hommes, parce que je dirais qu'ils sont un peu victimes, entre guillemets, de tout ce que nous vivons ici sur Terre, je vais m'expliquer par rapport à ça. Il y a de l'autre côté des femmes qui matin, midi, soir, passent sur, utilisent les réseaux sociaux pour nous montrer comment elles sont femmes en se dénudant. Ce qui fait que la femme est en train de chercher une chose et son contraire. Vous voulez qu'on vous respecte. Vous voulez qu'on vous donne tous les droits. Et déjà, je signale ici que, ici sur Terre, la femme a plus de droits que l'homme. Ça, c'est le monde ignore ça. C'est dans la, même depuis la Bible. Si vous la lisez fidèlement, vous allez voir que la femme a plus de droits et de protection que l'homme. C'est elle qui ignore cela. Je voudrais aussi savoir, qu'est-ce que madame, les femmes comme madame, ou que madame représente sur le plateau, qu'est-ce qu'elles font pour ne pas... qu'est-ce que je dis?
Oui, oui, allez-y rapidement.
Moi, je voudrais conseiller, je voudrais conseiller de commencer par éduquer ces femmes-là qui sont en train de faire de leur mieux pour séduire les hommes sur Internet. L'invité a parlé d'une femme qui prend ses photos et qui les met sur Internet. Qui demande à ces femmes-là de prendre des photos et de publier sur Internet, sur TikTok, en train de danser, de nous montrer tous les côtés de son corps? Comprenez? Donc, nous vivons dans un monde où il y a les hommes qui seront attirés par les femmes. Excusez-moi de le dire, ce genre de fléau ne vont pas prendre fin. Alors, nous demanderons aux femmes de se retenir un peu, de se comporter un peu dignement. Parce que quelqu'un qui envie une femme et qui envoie une vidéo de nudité, qui envoie une vidéo de ses photos sur Internet, dans un téléphone d'un ami. Vous voulez que la personne en fasse quoi?
Merci.
Je ne suis pas en train de dépendre des gens masculins. Hein,
oui, oui. On a compris. Merci beaucoup. On a pris beaucoup de temps, Monsieur Jeannot. On a compris votre préoccupation. On va prendre un dernier auditeur rapidement. Papi Mboyo, vous êtes en Bandaka. Bonjour. Soyez bref. Quelle est votre question par rapport au sujet du jour?
Merci. Bonjour, Monsieur Jody. Bonjour aux invités. Et je pouvais aller tout droit dans les petites questions.
Oui.
Il y a des questions, c'est David, il y a des petites questions à poser aussi à madame.
Oui.
La première question, c'est à monsieur David. Il faut attaquer plutôt le, maintenant nous sommes en train d'attaquer les effets. Mais moi, je pense que, à mon humble avis, on devait aller tout droit dans les causes. Alors, qu'ils me disent quelles sont les causes qui font ce qui est l'influence négative sur le plan numérique. Est-ce que les victimes du VPG sont-ils impliquées aussi dedans? Parce qu'ils donnent leur consentement, n'est-ce pas? Et le monsieur le but, c'est là. Et deux questions pour madame. Madame, ici à la maison chez moi, j'ai ma jeune fille. Elle a 13 ans aujourd'hui. Et chaque fois qu'elle part à l'école, il y a le garçon qui lui dérange. Tu es ma femme. Elle commence à voir ça comme si c'est un enseignement. Et souvent, elle est venue me dire que je passe de temps à autre dans leur école. Ça devient pour moi comme un embêtement, aussi un dérangement. Quand j'arrive là-bas, les autres de l'école essaient de m'apaiser pour dire que sont les enfants, il n'y a rien qui doit se passer.
Oui.
C'est une situation psychologique que je dois adopter. Hein? Et pour finir, j'aimerais demander à la dame quel sujet. Donc, c'est au gouvernement pour l'accompagnement de cette mesure. Voilà ce que je pouvais en avoir, M. Jody. Merci beaucoup pour m'avoir associé.
Merci à vous. Bien, il y a beaucoup d'interventions. Le sujet intéresse tellement les auditeurs. Monsieur Vungbote, vous avez la parole.
Oui, si, il faudrait que je réponde à Monsieur Papi Mboyo. Il m'a posé deux questions. Je crois que la deuxième question que j'ai pas très bien suivie, la première, elle est, quelles sont les causes qui font en sorte qu'il y ait des influences négatives pour arriver aux violences numériques? Moi, je crois déjà, ça, comme on a Madame Yéhet venait de le dire, c'est déjà le faible taux d'éducation. Et ça, elles n'ont pas assez d'informations, elles ne savent pas quoi faire, et elles n'ont pas aussi d'exemple à suivre. Et nous sommes dans une génération où elles essayent de suivre tout ce qui est sur les réseaux, et celles qu'on appelle aujourd'hui les influenceuses.
Les influenceuses, ouais.
Alors qu'à la maison, peut-être elles ont des mères qui ont été très bien éduquées, des mères qui essayent vraiment de l'élever suivant la norme, suivant la culture. Elles se disent que c'est pas la norme, c'est démodé, ça ne fait pas partie de leur génération. Et pour essayer de s'accommoder avec la génération actuelle, qu'est-ce qu'elles font? Elles veulent donner une image avec celles qu'elles sont en train de voir sur les réseaux, et c'est ce qui fait en sorte qu'elles puissent tomber dans ce type de
violence. Ça veut dire quelque part, il y a un relâchement et le contrôle parental n'est plus exercé comme avant.
Exactement, je pourrais le dire aussi aujourd'hui, parce que dans l'ancien temps, on voyait les parents suivre les enfants vraiment par derrière, essayer même d'utiliser le fouet pour ne pas que les enfants sautent la barrière. Aujourd'hui, en tout cas, il n'y a plus ce contrôle-là. Les parents se sont relâchés. Il y a ce laxisme-là. Voilà pourquoi on essaie aussi, on voit un peu partout ce genre de violence être. Voilà.
Madame Elonga.
Oui. Par rapport à cette réflexion, c'est vrai, il y a un relâchement des parents. Mais je crois que si je dois reprendre une des questions qui nous ont été posées, le sens aujourd'hui du cours d'éducation à la vie, il y a un monsieur qui a dit, j'ai pas pris son nom, il a dit que sa maman, quand il avait ses sœurs qui grandissaient, sa maman contrôlait ses sœurs tous les samedis pour savoir si elles avaient toujours leur virginité. Ça, c'est la part des parents. Mais quelle est la part des parents aujourd'hui?
Les parents sont démissionnaires.
Tout semble croire que les parents laissent toute la responsabilité à l'école. Parce que moi, je crois que dans les pays occidentaux, c'est vrai, il n'y a pas que c'est pas toujours rose. Il y a aussi beaucoup de choses que nous dénonçons. Mais je crois que quand il y a les problèmes des filles mères, avec le taux de sexualité qu'il y a en Occident, on devrait avoir un très grand nombre de filles mères. Mais pourquoi ce n'est pas le cas? Parce que justement, je crois que les parents parlent avec les enfants. Et nous devons également apprendre à parler à nos enfants sur les dangers qui les guettent dehors. Comme en Afrique de l'Ouest, ils disent le dehors, là, n'est pas bien. Parce que simplement, tant qu'on ne dit rien, c'est...
Avec nos tabous, là, en Afrique, les parents ne disent rien aux enfants.
Tant qu'on ne dit rien, tout est permis. Oui. Mais je crois quand même que, moi, il y a des choses que j'ai en tête jusqu'aujourd'hui. J'allais à l'école, j'étais encore au primaire ou au secondaire, il arrivait où des fois le bus scolaire ne passait pas, on devait prendre un taxi. Mais que nous disait ma mère? Elle nous disait toujours, Yéyette, ne sors jamais l'argent de ta course dans le taxi, tu ne sais pas avec qui tu es. C'était en quelle année, ça? Mais aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, quand je dois prendre un taxi, j'ai déjà l'argent de ma course en main. Je n'ouvre pas le sac dans le taxi. Parce qu'aujourd'hui, plus qu'hier, on ne sait pas avec qui on est dans les taxis. Ça veut dire quelque part, les parents doivent parler aux enfants. Tant que les parents ne parlent pas aux enfants, tant que les parents ne brisent pas la glace, les enfants vont dehors et ils vont expérimenter tout ce que la rue leur dit, tout ce que Google leur dit. Donc il est très important pour les parents de reprendre ce flambeau.
Déjà les parents eux-mêmes, ils ne sont pas très experts dans les réseaux, tout ça. Les enfants sont très avancés.
Comment on les appelle, les enfants androïdes?
Android 2.0.
Voilà. Donc même les petits de 2 ans, 3 ans, ils savent déjà comment...
comment défiler tout ça.
Mais il faut que les parents reprennent le flambeau. Parce qu'on ne peut pas tout laisser à l'école. L'école, l'éducation commence à la maison et ça se poursuit à l'école. Mais on ne peut pas tout laisser à l'école. Le cours d'éducation à la vie, il est peut-être mal donné. Je ne peux pas...
Avec légèreté, par certains enseignants.
Avec légèreté, peut-être mal donné et tout ça. Mais si les parents ont dit donner le béaba aux enfants sur l'éducation à la vie, déjà à la maison, on n'aurait peut-être pas toutes ces remarques qui nous sont faites aujourd'hui. Je crois que les parents, nous avons une très grande part de responsabilité sur la vie de nos enfants.
Madame Yéyette, vous avez une bande dessinée que vous utilisez lors de vos sensibilisations, Le Combat d'Anaïs. Pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Oui, Le Combat d'Anaïs, c'est une histoire que j'ai écrite. Sur base de toutes les différentes histoires que j'entends dans les écoles quand je termine ma sensibilisation, la plupart du temps c'est les filles qui viennent à la fin de la sensibilisation, pendant qu'on est en train de ranger notre matériel, il y a les filles viennent, voilà, qui te racontent les violences dont elles sont la plupart des temps victimes. Mais je ne vais pas, c'est pas que je caresse les écoles dans le sens du poil, mais c'est que toutes les histoires que les enfants m'ont racontées, ce sont des violences qu'ils vivent, qu'elles vivent à la maison, qu'elles vivent en famille. Soit qu'elle était allée en vacances ou habitée chez sa tante parce que sa maman n'avait plus les moyens, sa maman n'est plus à Kinshasa. Pendant la nuit, il y a le mari de sa tante qui entre dans sa chambre, qui commence à lui faire des attouchements et tout ça, et dès qu'elle les dénonce, elle est chassée.
Et la tante ne va pas croire sa version.
Non,
elle va...
non. Et même très peu de parents croient quand leurs enfants leur disent qu'ils ont été violés. Même en famille. Et c'est comme ça que ça fait que les enfants se taisent et ils subissent dans le silence. Mais on ne sait pas quels sont les traumatismes que ces enfants vivent en ne dénonçant pas. Parce que quand on dénonce, il y a possibilité d'offrir un appui psychologique. Mais quand ce n'est pas le cas, c'est très difficile. Ce sont des enfants. En fait, ce sont des morts vivants qui marchent. Voilà.
Ils vivent avec ces traumatismes
toute la vie. Ils vivent avec ce traumatisme toute la vie et ils n'en guérissent plus. Et cette histoire, comme elle c'était en fait l'histoire que j'ai eue de plusieurs petites filles, j'ai trouvé une histoire avec. Et c'est comme ça que nous l'offrons à la fin de nos activités. Nous les distribuons dans les écoles. Ce matériel il a été financé par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et le ministère de l'EPST l'a validé comme document de référence dans le système éducatif de la RDC. Donc on se bat pour que nous puissions avoir quand même des bailleurs, parce que il y a beaucoup d'élèves congolais. Il y a beaucoup d'élèves congolais. Kinshasa n'est pas la RDC. Et nous aimerions également, parce que jusque-là, la seule version que nous avons, c'est la version française. On aimerait quand même avoir les versions en quatre langues nationales. Oui, parce que c'est vrai, le français est la langue nationale et la langue de l'enseignement. Mais si je vais au fin fond du Kasaï ou si je vais au fin fond de l'Équateur, ça ne sera pas le français qui va aider à les jeunes filles ou les jeunes gens à comprendre. Donc idéalement qu'on le mette dans la langue qu'ils manipulent beaucoup plus facilement pour qu'ils comprennent l'histoire, sinon ça ne servirait à rien.
Bien, alors Sylvain Aguenora il a parlé des femmes mal éduquées qui sur les réseaux sociaux s'exposent, tout ça, et c'est elles-mêmes qui sont à la base des harcèlements et autres.
Bon, en fait, si... comme il dit, ce sont des femmes qui publient leur nudité et qui en font... malheureusement, c'est le cas. Ce que j'étais en train de dire, un réseau social comme TikTok qui n'a pratiquement pas de barrière, tout le monde y a accès. Donc, il est très difficile, effectivement, pour les enfants de ne pas le voir. Donc, les enfants ne vont que voir ça. Et malheureusement, les enfants vont voir, ils vont dire, ah, si les grandes personnes... Parce que les enfants, c'est des grands psychologues, des grands imitateurs plutôt. Donc, quand ils voient un adulte faire quelque chose...
Ils vont faire pareil.
Voilà pourquoi... Il faut vraiment que les autorités, comme on a dit tout à l'heure, puissent vraiment bien mettre en œuvre le code numérique et tout ce qui va avec. Mais pour ceux qui aient des enfants, je crois que c'est peut-être sur base de ce qu'ils ont vu, ce qu'ils auraient vu des grandes personnes le faire, ou carrément c'est elles sont influencées par quelqu'un. C'est de deux choses l'une. Soit elles ont vu, soit elles sont influencées par quelqu'un. Voilà pourquoi les femmes que... peut-être de mœurs légères, je ne sais pas si on peut le dire ainsi, celles qui montrent leur nudité via les réseaux sociaux. Oui. Bon, elles ne sont pas un exemple. Je suis désolée parce que on ne peut pas faire l'apologie de ce genre
des antivaleurs.
Mais les enfants ont besoin d'être sensibilisés. Les enfants ont besoin d'être sensibilisés parce que quand nous leur parlons des victimes de viol, On essaie de leur décrire la situation, l'état dans lequel se trouve une victime de viol. J'ai dit, une victime de viol ne pourra même pas te regarder en face, tu ne pourras même pas lui prendre par la main parce qu'elle est, désormais effrayée, elle vit dans la crainte, dans la culpabilité,
dans l'anxiété, tout ça.
Et c'est très difficile. Il faut que nous amenions les enfants à comprendre que c'est vrai, j'ai toujours dit que les victimes de violence n'ont jamais voulu être violées, pour la plupart. Il y en a parce que ce sont les bourreaux.
Madame Yaya, on est déjà à la fin. Comment joindre l'ONG Femina s'il y a des gens qui veulent collaborer avec vous, Monsieur David?
Oui, je pense que Maman Yaya va passer le numéro. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux. Il suffit juste d'utiliser Instagram ou Facebook, taper Femina ASBL. Vous allez nous retrouver. Et nous avons aussi un numéro et un bureau aussi en place. Ça se trouve à Lupen sur l'avenue Masikita.
Masikita, est-ce qu'il y a un numéro, Madame Yaya Telonga? Lesquels?
Joignable, Femina est joignable au 084. 84 30 113.
Voilà. Madame Yaya Telonga, merci. Monsieur David,
merci
à la prochaine.
Merci. D'accord, beaucoup. Merci.